Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Followers de Jupiter, aujourd'hui je lance ma série de tutos.
Salut Alex.
Ah, mais non Charlie, hein? J'étais en train de faire une vidéo.
Ah, sur quoi?
Ben, c'est un tuto d'humour pour aider les gens à comprendre les blagues.
Ah, mais c'est super.
Ah, bah ouais, en fait, ouais. Je prends exemple sur notre invité, Benjamin Brio.
Ouais, et lui il est fort, hein. Il arrive à parler d'histoire sur un ton humoristique tout en traitant de sujets sérieux.
Sa chaîne, 800 000 abonnés, hein, ça fait des pépettes, allez, je me lance. Salut.
Pourquoi salut? Tu peux pas dire bonjour la France Inter comme dans l'émission?
YouTube, c'est un truc de jeune, on dit salut les potos.
Ah, bon,
tu vois, il faudrait peut-être trouver un nom pour nos fans d'ailleurs.
Les Jupitos.
Mais c'est... Eh, ça c'est bon. Allez, maintenant tu m'interromps pas, on y va.
D'accord. Okay.
Salut les Jupitos, bienvenue dans mon nouveau tuto. Aujourd'hui, on va analyser la blague des deux tomates.
Oh là, mais qu'est-ce qu'il fait?
Les deux tomates qui traversent la rue, il y en a une qui se fait écraser et la deuxième elle se retourne, elle dit tu viens ketchup.
Oh, mais c'est nul.
Pourquoi? C'est une excellente blague.
Ah ouais, pourquoi sans jeu de mots?
Déjà l'absurde, deux tomates ça traverse pas une rue. On est déjà dans un univers surréaliste.
Et complètement con surtout.
Et ensuite, c'est hilarant parce que plutôt que d'aider son ami qui est écrasé, elle lui dit tu viens ketchup.
J'espère que notre invité est plus pertinent que ça.
Parce qu'en fait, une tomate écrasé, ça ressemble à du ketchup.
Oui, on avait compris, merci.
Et c'est pour ça que c'est drôle.
Ou alors c'est consternant.
Et la blague, elle marche aussi avec deux œufs. Mais alors, il faut dire, tu viens omelette et deux pommes, tu viens compote.
Non, elle est tellement bonne, ça vaut la peine de faire des variantes.
Merci les Jupitons, si vous avez aimé,
non, pas du tout.
Rejoignez ma chaîne en partageant un maximum cette vidéo. Ciao, ciao. C'était bien, non?
Alex, youtubeur, je crois que c'est un métier quand même.
Je sais, j'ai bien, bien commencé quoi. Allez, clique, abonne-toi à ma chaîne. La semaine prochaine, je fais sur la blague des fous qui disent non. Tu la connais?
Non.
T'es un fou. Je t'expliquerai pourquoi c'est drôle dans le tuto.
Salut, la France Inter. Vous vivez dans la Startup Nation qui vire des profs pour mettre des flics à la place dans les écoles? Eh bien, vous écoutez la Startup Émission qui vire des actualités pour mettre des blagues à la place dans la radio. Parmi les grandes batailles de l'histoire, l'une est éternelle, c'est la bataille idéologique. Exemple, la une d'un hors-série de Valeurs Actuelles cette semaine, mieux que la une de Spirou Magazine, sur des héros prétendument chassés de l'histoire et on les a envoyés sur la Lune aussi peut-être?
Non mais personne n'est allé sur la Lune, c'est une mise en scène de Stanley Lubrick.
La télévision publique tchèque propose une sorte de Koh-Lanta de l'histoire. Elle immerge des candidats dans une usine à l'époque de la révolution industrielle. Ils vivent et travaillent comme à l'époque. C'est un succès d'audience et d'estime. Et écoutez, c'est très très efficace sur les jeunes.
Et là, c'est la guerre mondiale de 78.
Le livre de Stéphane Bern sur les rois est étudié dans les écoles. En tout cas, il a été distribué à 50 000 exemplaires dans des établissements. Les professeurs d'histoire géo sont ravis, ça va sans dire. C'est remonté jusqu'au rectorat. Hein.
Stéphane Bern, évidemment, tu me le passes. Stéphane Bern.
Je l'ai connu stagiaire.
Lui, sa période préférée, c'est le Moyen-Âge. Ivre virgule, il oublie d'enlever son armure pour aller se baigner. Alex Vizorek.
Ça rouille évidemment, je vais expliquer dans mon prochain tuto. Bonjour Charlie Donnacker. Est-ce qu'on n'a pas une belle équipe aujourd'hui autour de la table?
Mais si.
Une équipe historique. À 17h20, si elle était un personnage de l'histoire, elle serait Marie Curie, car musicalement elle mélange n'importe quoi avec n'importe quoi et ça explose aux oreilles. C'est vous Mélanie Beauvais.
Et je vais en crever, ça c'est sûr. Opérette aujourd'hui, on partira à Marseille avec Moussuté.
Très bien, à 17h30, si elle était un personnage historique, Joseph Ignace Guillotin, car elle aussi, elle coupe les morts, mais uniquement leur déclaration, Christine Gonzalez.
Il y a pile 50 ans, le roi du musical, Maurice Chevalier, donnait son tout dernier concert, l'occasion de parler avec lui tout à l'heure. Il m'a dit qu'il se réjouissait beaucoup, mais franchement, j'y crois pas une seconde.
Ça n'est pas mentir, ça. C'est simplement ne pas être un salaud, vous comprenez?
Très bien. 17h40, si elle était un personnage... Non, déjà, l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. Alors, la femme noire, on n'est pas près de l'avoir arrivée. Bonjour, Rukyata Wedrango. De quoi on va parler?
Bonjour, Alex. On va parler de remaniement.
De remaniement, très bien. À 17h55, il viendra le personnage historique qui est le fils caché de Louise Michel et de Farinelli. C'est Frédéric Fromet, l'anarchiste castrat, qui viendra nous chanter l'actu.
Allez, voici celui qui va nous inviter à voyager dans l'histoire. Vous êtes...
Benjamin Brio.
Oui, c'est lui.
Bonjour.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Bonjour Benjamin Brio, merci d'être là.
Merci.
Vous êtes le créateur de la chaîne YouTube Nota Bene. Vous êtes donc YouTuber, vous racontez l'histoire avec un grand H. Précisons à nos auditeurs, vous n'êtes pas historien de formation.
Pas du tout.
Vous êtes autodidacte.
Tout à fait.
Passionné. Et alors, il existe plusieurs chaînes d'histoire sur YouTube. Vous faites figure vraiment de rockstar en la matière. Vous êtes la rockstar de la YouTube histoire. Plein de gens font des selfies avec vous, etc. Il y a quasiment 800 000 abonnés, c'est ça,
pour l'instant? Oui, bientôt, ouais,
à votre chaîne. Grand succès. Alors, chaque chaîne a une manière différente de raconter l'histoire, bien sûr. Quelle est la vôtre? Comment est-ce que vous, quelle est votre particularité? Faites de votre chaîne.
En fait, j'ai pas mal de formats sur la chaîne pour qui s'adressent à différents publics. Donc, je pense que c'est ça aussi la force de la chaîne, c'est que j'ai vraiment des programmes qui s'adressent à différents types de personnes. Il y a autant de l'histoire, on va dire, très générale, avec des émissions un petit peu rigolotes, les sports extrêmes dans l'histoire, par exemple, ouais. Des choses qui vont vraiment attirer le public. Le ver solitaire, comment choper un ver solitaire dans l'histoire, voilà. Il y a des reportages pour ceux qui aiment bien un peu les trucs à l'ancienne, mais qui sont aussi très intéressants. Donc, je vais sur le terrain. Là, je viens de sortir un épisode sur la bataille de la Somme 1918, par exemple. Donc, on va vraiment travailler avec des images d'archives, qu'on va choper à l'ECPAD, qui est un peu l'INA de l'armée. Et puis, on a des formats rigolos aussi qui viennent utiliser la pop culture.
Oui.
Pour se raccrocher un petit peu à cette histoire, donc où je vais dresser des parallèles entre Harry Potter et l'histoire, Star Wars et l'histoire, Le Dernier Samouraï, plein de trucs comme ça.
C'est des formats d'une quinzaine de minutes.
C'est vraiment très fluctuant, finalement. Dépend. La majorité des épisodes, c'est entre 10 et 20 minutes, quoi, on va dire.
Voilà.
Par exemple, vous appuyez aussi un peu sur l'insolite, hein, pour démarrer la narration. Par exemple, Louis III ou Charles VIII qui sont morts en se prenant un linteau de porte. Il y a quand même plusieurs cas dans l'histoire, vous l'expliquez. Maximilien Ier de Habsbourg qui a péri en mangeant trop de melons.
Et oui, c'est tragique.
Et c'est par ce truchement-là que... Oh ben, j'ai dit truchement. Je parle comme Emmanuel Macron, attention. Il faut faire quelque chose. Par ce truchement-là que vous... qui est presque un prétexte pour entrer dans une narration... dans l'histoire, c'est ça ?
Oui, c'est ça le grand jeu de la chaîne, c'est à ça que je m'amuse, c'est-à-dire que on nous parle souvent de l'anecdote historique un peu rigolote, voilà, qui intéresse un petit peu les gens. Bah moi je me sers de ça aussi pour contextualiser énormément et dans les émissions qui m'ont fait connaître au début, il y avait cette émission sur les morts un petit peu insolites des rois. Et ça va vraiment être l'anecdote, la petite carotte, finalement, la promesse du truc un peu rigolo qu'on a au bout de l'émission. Et moi, je vais profiter de ça pour développer tout le contexte, dans quel contexte ce roi-là évoluait à l'époque et comment il est mort tragiquement.
Donc vous faites de la vulgarisation aussi, de la pédagogie, on peut dire de la simplification. Jusqu'où vous vous autorisez cette simplification pour faire passer le message? Parce que la manière dont vous le faites passer sur YouTube permet de toucher un large public, d'accrocher aussi les gens, comme le succès est grand grâce à ça aussi. Donc la simplification, jusqu'où vous pouvez aller?
Après, j'ai un format, comme je disais, entre 10 et 20 minutes qui me permet d'aborder quand même pas mal de choses. Maintenant, il y a un choix éditorial à faire aussi quand on va sur certains sujets. Moi, mon but, ça va pas être de remplacer un prof ou de faire une thèse dans chaque vidéo. Le but, c'est vraiment de donner assez d'informations pour avoir une connaissance globale et ensuite, à charge de l'internaute, d'aller plus loin avec des liens que je mets dans la description. Où il peut lui-même aller faire ses petites recherches. Maintenant, j'ai des épisodes, alors ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais pour les enfants, par exemple, entre 8 et 10 ans, où là, c'était des écoliers qui me posaient des questions, c'est des épisodes qui sont un peu compliqués à écrire, parce qu'effectivement, en 3-4 minutes, on doit résumer, on doit synthétiser une question, et là, c'est toujours très compliqué, finalement. Hein. Donc, c'est pour ça aussi que je travaille avec certains historiens, pour éviter de pas louper l'essentiel, finalement, hein, puisque, comme j'ai dit, je suis pas historien, moi, je suis
autodidacte, donc quelles sont vos références quand vous travaillez ou la passion de l'histoire, elle s'est nourrie avec quels livres, avec quels historiens, avec peut-être quelles émissions,
Alors plus qu'une passion de l'histoire, moi il y a une passion finalement de la transmission en fait. Hein, moi après le bac, j'ai commencé une fac d'histoire, mais ma grande passion c'était aussi l'audiovisuel. Donc finalement j'ai arrêté la fac d'histoire pour aller vers l'audiovisuel. Et j'ai travaillé pendant 7 ans dans une boîte de prod et c'est un peu des émissions comme C'est pas sorcier, hein, qu'on forgeait mon enfance, qui m'ont donné aussi envie de faire ce type d'émission-là. Après, il y a quelques orateurs très connus, comme Decaux ou Guillemin, même si Guillemin a ses qualités et ses défauts. Avoir un type comme ça face caméra qui pendant 2 heures arrive à nous subjuguer avec un discours qui parfois est quand même très technique, moi, c'est des choses qui me faisaient un petit peu rêver et j'avais envie aussi de pouvoir transmettre cette passion de l'histoire à travers un format sur YouTube.
Benjamin Brio, c'est le créateur de la chaîne YouTube Nota Bene, qu'on vous invite bien sûr à aller voir et vous abonner et à rejoindre. Vous êtes sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, On écoute Michel Polnareff, il est toujours vivant quand même, rassurez-moi.
Oui, bon, oui, il sort un disque.
Michel Polnareff sur Inter.
Non, Christine,
je ne sais pas, je ne sais pas.
Je suis une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'envoler sur ses lèvres. Moi, j'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posée là sur ma bouche? Demanda-t-elle au peintre qui lui dit comme c'est joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser sur ses lèvres. Moi j'avais déposé le coudou des plutôt baisés sur ses lèvres. D'une gifle elle m'a tué, croyant que je voulais la piquer. J'étais une mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis tant elle était jolie. Je suis une mouche écrasée sur sa bouche. Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime, sinon elles deviennent piquées. Sur ses lèvres, moi, je m'étais posé pour lui dire que je l'aimais. Mais les femmes, moi, je ne m'étais pas méfié. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. C'est un peu tard, vous me direz. Posée sur sa bouche, je voulais seulement l'embrasser, mais elle a cru que j'allais la piquer. Que c'est dur d'être une mouche, tant d'autres que vous prennent la mouche. De moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel est loin sur ses lèvres. Moi je m'étais posée pour lui dire que je l'aimais. Mais des fois moi je ne m'étais pas méfiée. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Une mouche c'est vraiment bête à tuer. Une mouche c'est vraiment bête à tuer.
Michel Polnareff sur France Inter, vous écoutez Par Jupiter, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en compagnie de Benjamin Briot, que vous connaissez sans doute grâce à sa chaîne YouTube Nota Bene, chaîne d'histoire.
Et autour de lui, nous avons Christine Gonzalez qui, elle aussi, triture l'histoire, on va dire.
Oui, à ma manière.
Rukia Tawidarogo et Mélanie Bauer qui parlera opérette.
Et on revient bien dans l'actualité.
Alors
maintenant,
là, on est à fond.
En tartons, les pompeux, cornichons. chaud.
Le journal de presque 17h17.
Glop.
On commence par les titres.
Météo, un froid polaire va débarquer sur la France ce week-end.
Oui, ça ne me dérange pas qu'un froid polaire débarque tant qu'il ne ramène pas Ségolène Royal.
Jean-Michel Blanquer n'est pas opposé à la présence de policiers dans les écoles.
Oui, en même temps, vu le nombre d'écoliers qui finissent en ce moment au commissariat, ça fait un peu programme d'échange scolaire.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Eh oui, elles vont pas partir en vacances, mais brèves.
Et rappelons d'abord que ce week-end, ce sera le changement d'heure.
Alors, pour rappel, pour les insoumis qui nous écoutent, ça signifie qu'à 2h, il sera 3h. Et que donc à 5h, il sera l'heure pour Sophia Chikirou de rentrer chez elle.
Justement, depuis ces différents coups de sang de la semaine dernière, Jean-Luc Mélenchon est en chute dans les sondages.
Eh oui, à croire que les Français sont encore plus abrutis que les journalistes de Radio France.
À l'extrême droite, Jean-Marie Le Pen ne sera pas sur la liste Rassemblement National pour les Européennes. En effet, sa fille lui a dit non.
Ouais, enfin, si ça se trouve, il dira quand même, parce qu'une fille qui dit non à son père, ben parfois ça ne suffit pas à l'arrêter. Mais on n'est pas là pour parler de Woody Allen.
Nucléaire, le Conseil d'État a annulé le décret sur la fermeture de Fessenheim.
Eh oui, donc maintenant, le plus logique, ce serait que le maire de Fessenheim entame les démarches pour le jumelage avec Fukushima.
Venons-en à François de Rugy, qui malgré les 5 personnes tuées par des chasseurs cette année en France, refuse l'idée d'un jour sans chasse.
Eh oui, parce qu'il connaît bien l'adage François de Rugy qui dit « qui se mêle de la chasse perd sa place ».
Justement, en Charente-Maritime, une récompense est offerte pour les chasseurs qui tueront le plus de renards.
Oui, donc si vous comptiez faire du VTT du côté de La Rochelle, prenez une bonne assurance vie.
Autre colère, celle des internautes qui se sont mobilisés pour lancer un appel à bloquer les routes contre la hausse du prix du carburant.
Oui, créer plein de bouchons partout, méfiez-vous les gars, parce qu'Anne Hidalgo va porter plainte pour plagiat.
Société, Fun Radio crée la polémique avec un sondage qui banalise la violence conjugale.
Ils ont demandé aux auditeurs s'ils trouvaient normal qu'une femme refuse des rapports pendant son sommeil. Et donc le sujet, qui est un sujet lourd et difficile, a été traité dans Touche pas à mon poste le lendemain. Et coup de bol, Nabila était sur le plateau.
Comment on peut savoir si elle est d'accord ou pas, étant donné qu'elle dort?
Voilà, c'est une bonne intervention. Même les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont trouvé la question complètement con, et c'est vous dire.
International à présent en Chine, 14 écoliers blessés à coups de couteau dans un jardin d'enfants.
Ouais, c'est dingue cette histoire. Il y a donc des enfants qui vont à l'école en Chine et qui ne sont pas à l'usine. Attention, soyez prudents les amis.
Aux États-Unis, un homme a été arrêté pour avoir mis de fausses flèches de direction sur le sol d'un Ikea et avoir créé un labyrinthe sans sortie.
Quel génie. Ouais. Je me demande quel est le chef d'un inculpation, séquestration ou alors complicité de tentative d'assassinat entre les couples qui sont restés enfermés chez IKEA. En tout cas, c'est pas clair.
Est-ce qu'il y aura des brèves?
Oui, Paris, un chauffeur de bus demande à ses passagers de descendre pour permettre à un handicapé de monter. On dirait une métaphore du remaniement ministériel d'Emmanuel Macron et la nomination de Christophe Castaner à l'intérieur.
Allez, la dernière.
Oui, mieux qu'une brève. Un cadeau. Un chanteur belge, on l'a tous adoré. Francis Sarlette. Il a fait un gros buzz avec ses excellentes chansons pour soutenir les Belges à la Coupe du Monde.
Allez les Belges, on va gagner.
Voilà, alors c'est un vrai concurrent hein, sur YouTube pour vous. Alors attention, parce que là, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas gagné d'ailleurs. Il se lance dans la chanson de service public, presque 1 million de vues en 24 heures.
N'oubliez pas de changer l'heure. Où est là pour ce week-end?
Nous devons changer. Voilà, les paroles sont bien écrites. Voilà, fin du game, je pense.
Merci beaucoup, Alex Vizorek.
Mais de rien.
Alex, vous jouez où, quoi, comment ces derniers temps?
Je vais dire Pierre et le Loup.
Ah
si
bon
vous êtes en vacances ou de passage à Paris, le Comédia, les 1 et 2, 3 novembre.
Merci. Allez, abordons avec notre invité Benjamin Brio, le créateur de la chaîne YouTube Nota Bene, ce premier sujet dans une émission spéciale histoire. Oui. Valeurs Actuelles publie un hors-série consacré...
Spéciale histoire, Valeurs Actuelles.
Ça vous fait déjà rire. Oui. Donc, hors-série de Valeurs Actuelles consacré à l'histoire, où le magazine rend hommage à nos ancêtres, les Gaulois. Formule proscrite des livres d'histoire, nous dit le magazine. Hommage aux Celtes, aux Francs, aux Gaulois. L'OTAN, patron de la chaîne Histoire, par exemple, Patrick Buisson, permettait notamment aux étudiants de bien révisionner avant les examens.
Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roseveau. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez neuf. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papin, au lycée Papine, au lycée Papillon.
Georges chante le lycée Papillon. Vous connaissiez?
Non, pas du tout. J'aime beaucoup.
Moi non plus, voilà. Alors, est-ce que vous avez vu cette une avec un mâle blond moustachu, type Astérix, mais en plus...
Un peu comme vous, d'ailleurs.
Voilà, attention.
C'est vrai que vous avez un style anti-Stéphane Bern. Vous avez plutôt un style rocker, vous. On a beaucoup ri en voyant cette une. On ne devrait pas, c'est de l'histoire, c'est sérieux. Je sais pas, pourquoi est-ce qu'on a ri devant cette une?
Non mais moi aussi ça me fait rire, mais ça me fait rire parce que je suis fatigué de voir ça. C'est quand même incroyable de voir qu'aujourd'hui il y a encore toute une frange de la presse ou d'écrivains qui se reposent sur un roman national hérité du 19e et qui s'appuie sur des historiens qui officiaient début 20e quoi. On est vraiment à 100 lieues de la recherche historique actuelle. Et je trouve ça assez dramatique de voir que cette presse-là revient sans cesse sur des revendications identitaires farfelues parce que
c'est l'utilisation politique de l'histoire qui vous pose
c'est une utilisation totalement politique de l'histoire. Alors moi, l'histoire, comme je l'ai dit toujours, finalement, elle est pas neutre. Hein, c'est-à-dire que les historiens qui produisent du contenu scientifique, historique, se doivent de prendre du recul et d'être le plus objectif possible. Maintenant, ils sont aussi les héritiers de leur éducation, donc ils ont quand même un petit biais quelque part. Mais là, quand on est dans l'interprétation de ces sources-là, bien évidemment qu'il y a du politique et la personne qui revendique une objectivité ou la vraie histoire, c'est qu'en général elle ment hein, puisque l'histoire elle est faite de, comme disait un copain, l'histoire elle est faite de trous. Et finalement, c'est à l'historien d'interpréter les sources pour essayer de combler ces trous. Et donc on l'interprète parfois un petit peu à notre source quoi. Et même moi qui tente d'être un peu objectif sur la chaîne, bon bah encore une fois, je suis l'héritier aussi de mon éducation, donc forcément j'ai un discours qui passe avec parfois des idées, et ça faut en être conscient, faut être aussi clair avec son public.
Et votre lecture, elle est comment alors? Parce qu'il y a une lecture plutôt de droite, il y a une lecture plutôt de gauche sans doute, il y a une lecture ni droite ni gauche, hein, celle d'Emmanuel Macron bien sûr.
Oui,
vous êtes clair avec les personnes qui vous regardent sur YouTube. Vous avez une lecture qui aurait tendance à aller vers où alors, vous?
Les mauvaises langues me traitent d'islamo-gauchiste, mais voilà,
c'est pas vrai. Vous aussi.
C'est comme ça, voilà, on est tous dans le même panier. Après, moi, ce que j'aime bien faire, j'avais un format sur l'émission qui revenait sur l'utilisation politique de l'histoire, justement, ouais. Qui était un format qui était un peu compliqué, hein, parce qu'en moins de 24 heures, il fallait pondre quelque chose qui soit assez pertinent. Donc, j'avais une équipe derrière d'une dizaine d'historiens qui me filaient des billes pour qu'on puisse aller à l'essentiel. Le but pour moi, c'était de provoquer une vraie réflexion, un vrai débat. Et de montrer finalement que l'histoire, d'un point de vue politique, elle est jamais anodine, jamais neutre. Quand il y a une petite phrase qui sort comme ça, c'est toujours dans un contexte particulier qui signifie quelque chose. Et c'est pour ça aussi que c'est important de s'intéresser à l'histoire, parce que quand on connaît un petit peu l'histoire et quand on s'y intéresse, on est plus à même finalement de lutter contre cette manipulation du discours politique où on serait tenté parfois de gober la petite phrase, quoi.
Benjamin Briot, sa chaîne YouTube s'appelle Nota Bene. Avec nous aujourd'hui, Mélanie Bauer, pour parler
oui,
musique évidemment.
Oui, je suis là. Alors, il faut bien le dire, et j'ose le clamer devant vous, monsieur Nota Bene, l'histoire c'est un peu vieillot. Pendant longtemps, on s'est farci des documentaires avec des universitaires en soupule, presque aussi sexy que vos t-shirts sur YouTube, ou bien des films en costume accompagnés de quintettes, de clavecins et autres violons pour nous raconter des folles épopées de nos ancêtres. Tout cela était un peu ringard. Certaines BO ont, cela dit, marqué les mémoires. Je pense à Barry Lyndon ou bien Excalibur, hein, la vieille version. Mais dans l'ensemble, c'est toujours la même rengaine jusqu'à la Révolution en 2006, le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola et la BO très moderne du groupe Phoenix.
A-t-elle une belle gorge? Je n'ai pas regardé la gorge de l'archiduchesse, je ne sais pas, Majesté.
C'est ce que je regarde d'abord, mon cher Choiseul.
Tout cela est ridicule.
Tout cela, madame, c'est Versailles.
Oui, car pour bien raconter le présent du passé, il est judicieux de nous y connecter avec nos repères actuels. La musique dans Marie-Antoinette raconte la vie rock'n'roll à la cour, et il n'y a rien de mieux que la décadence New Wave pour représenter cette folie qu'était Versailles. Le souci, c'est que la recette a été depuis moult fois réchauffée, et ça marche pas à tous les coups. Maintenant, la pop est devenue la norme, hein, dans tous les soap opéra historiques, de la musicomètre sur des scènes de sexe et de romantisme débile. C'est le danger de la modernité. Mais heureusement, la musique n'a pas dit son dernier mot. Elle creuse encore et encore dans son histoire pour faire du neuf. Je pense notamment au groupe du chanteur et du guitariste de Massilia Sound System, Moussuté et Les Jovens. C'est de l'occitane, c'est pas facile. Vous vous souvenez de Massilia Sound System ?
Oui. Mais qu'elle est bleue, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue. Oh, moi, ça me rend joyeux, mais qu'elle est bleue. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est bleue comme tes yeux. Oh, moi, ça me rend heureux.
Ils sont donc toujours à Marseille, les Massilia, et sortent deux disques d'opérette, un en 2014 et un nouveau la semaine dernière sous le nom de, je le retente, hein, Moussuté et les Jovens. Donc, alors je vous entends penser, bon bah c'est un peu vieillot cette histoire. Sauf que non, c'est très moderne, ça parle d'une belle histoire de métissage, de migrants arrivés par bateau dans le port de Marseille. C'est assez
non,
actuel.
Je ne vois pas, non.
Donc, avec une musique exotique, entre les deux guerres, les Italiens avec le bel canto, le jazz américain avec ses banjos et puis toutes les couleurs rythmiques des Caraïbes, tous ces sons qui se rencontrent avec la musique française dans les cabarets de la cité phocéenne.
L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malais n'a plus d'ours malade, il a que des oursets. Ça c'est marseillais, sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Y a plus de galets blancs, y a que des galets jaunes. Et galets jaunes, ça c'est marseillais.
Ça c'est marseillais. Ce titre est à l'origine composé par Vincent Scotto, un grand copain de Pagnol, marseillais, mort en 1952, non sans avoir écrit plus de 4000 chansons, dont des classiques pour Tino Rossi. Maurice Chevalier, tiens, on y reviendra. Des opérettes, des musiques de films. Je vous invite à acheter le disque en dur plutôt qu'en digital, car on apprend beaucoup de choses dans le livret sur cette grande époque musicale marseillaise, un pan d'histoire de France un peu gouailleur, souvent swing et délicieusement engagé, comme ici avec le très moderne Les 40 heures.
La semaine de 40 heures, c'était pas tant. On peut quitter sa demeure, 3 jours durant. S'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur. À la mer, à la montagne, jusqu'à la Côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop. Autrefois le peuple était réduit à l'esclavage. Il travaillait le jour et la nuit comme un sauvage. Heureusement qu'ils viennent d'obtenir des avantages. Ils ne songent plus qu'à ses loisirs et qu'à ses plaisirs. La semaine de 40 heures, c'était pas tant. On peut quitter sa demeure 3 jours durant. S'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur. À la mer, à la montagne, jusqu'à la Côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop. Le charcutier ferme 3 jours au moins, et son excuse, c'est faire l'andouille au bistrot du coin, il en abuse. Le coiffeur ferme le dimanche matin, et se refuse à nous raser les poils clandestins qu'on a dans la main. La semaine de 40 heures, c'était pas tant. On peut quitter sa demeure 3 jours durant. S'en aller à la campagne, respirer un peu d'air pur. À la mer, à la montagne, jusqu'à la Côte d'Azur. On se donne tellement de peine dans le boulot que 40 heures par semaine, c'est encore 39 de trop.
c'est encore 39 de trop.
Moussuté, donc.
Oui, hashtag par Jupiter. Jean-Luc Mélenchon tweet, est-ce qu'on pourrait passer des chansons en français? Parce qu'on ne comprend pas cet accent.
Alors, c'est sorti la semaine dernière, donc c'est déjà une antiquité. Moussuté et les Jovens. Et ils seront en concert à Paris le 23 novembre prochain.
Merci Mélanie Bauer. Vous écoutez France Inter, par Jupiter, avec Benjamin Brio. C'est le créateur de la chaîne YouTube Nota Bene. C'est la rockstar du YouTube de l'histoire, si vous voulez. Benjamin est avec nous jusqu'à 18h. On va faire une spéciale histoire, donc on a encore deux sujets qui nous attendent. Et pour l'instant, c'est aussi un peu d'histoire. Benjamin, voici Christine Gonzalez.
C'est à la fin du mois d'octobre 1968, il y a pile 50 ans, que le roi du musical, Maurice Chevalier, donne son tout dernier concert.
Oui.
Qui est là?
Maurice Chevalier.
Ah ben, vous êtes un rapide, hein, j'ai même pas eu le temps de vous appeler. Grande forme, hein. Ouais.
Si j'ose m'exprimer ainsi, parce que je sais bien dans le fond que je suis pas frais du tout. Mais enfin, je suis plus frais que certains autour de moi, n'est-ce pas?
Je dirais même que vous êtes plus frais que certains de vos fans vivants.
Ah ben évidemment, remarquez, j'avais jamais pensé à ça. Vous connaissez notre histoire, non?
Non, quelle histoire?
Cette nuit, à 3h du matin, ils ont réveillé ma maison au téléphone pour demander si c'était bien vrai que j'étais mort.
Qui? Vos fans?
Oui. C'est à peu près la 12e fois que ça m'arrivait, qu'au moins 12 fois on a raconté que j'étais mort, et que cette fois-ci j'étais plus mort que les autres fois, que je commençais une deuxième carrière dans
l'au-delà.
Ah oui.
Et j'imagine que vous êtes bien accompagné là-haut avec votre légendaire amour pour les femmes.
C'est avec Miss Tinguette que notre histoire a été la plus ronde.
C'est-à-dire?
Une maîtresse que j'adorais, n'est-ce pas, physiquement. Je dois dire qu'elle a été absolument extraordinaire avec moi.
Oui, c'est vrai, vous avez une histoire avec Miss Tinguette, j'avais complètement oublié.
Oh, ce que j'ai le trac alors.
Miss Tinguette?
Je parle trop fort?
Non.
Mais c'est charmant ici.
C'est France Inter.
Ah oui?
Oui. Maurice Chevalier, vous êtes toujours là?
Je me rends compte, en repensant à cette époque-là, que cette femme-là était une personnalité extraordinaire, n'est-ce pas?
Oui, vous étiez terriblement heureux tous les deux.
À ce moment-là, on appelait ça la joie de vivre. C'est difficile maintenant de parler de joie de vivre, parce que qui est-ce qui a la joie de vivre dans l'époque que nous traversons, mais on peut conserver le goût de vivre.
Vous n'aimez pas cette fin d'année 2018, Maurice Chevalier?
Non, je crois pas. Non.
Non?
Non.
Qu'est-ce qui vous gêne? Le silence de Macron sur les exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite, l'attitude de Mélenchon, Sarkozy en correctionnel?
Je tiens pas tellement à en parler, vous comprenez, mais je les connais.
Vous voulez pas qu'on en parle?
Ça risquerait de gêner mon dernier sourire, vous comprenez?
Oui, je vois. Vous préférez qu'on parle des femmes, donc.
Ben oui, c'est le plus beau jeu que le bon Dieu permet aux hommes, n'est-ce pas?
Et Marlène Dietrich, vous la regrettez pas?
Mais non.
Marlène Dietrich?
Oui, je m'appelle Marlène.
Incroyable, quelle surprise de venir comme ça à l'improviste en territoire français.
C'est une qualité allemande, je crois.
Bravo, vous trouvez ça drôle?
Oui, je trouve ça drôle. Ouais. Les Allemands ne sont pas très célèbres pour leur sens de l'humour.
Maurice Chevalier, un mot peut-être sur Marlène Dietrich?
C'était une femme électrique, comprenez-vous. Elle était plus que belle.
Oui, ça c'est bien vrai.
Elle était totalement désirable, elle était totalement attrayante, et d'une telle matière que presque toutes les autres femmes, à côté de ce gabarit-là, font un peu poids léger, vous comprenez?
Mon cul, oui!
Jacky Sardou!
C'est un gros sac à main, un bousculateur de poufias!
Jacky Sardou, vous pourriez pas changer de registre? Allez, sortez! Désolé les autres, c'est un bug dans la connexion.
Bousculateur de poufias.
On commence à apercevoir des clins d'œil de la Dame Noire, n'est-ce pas?
Oui, enfin bref. Maurice Chevalier, merci pour ce moment. Peut-être un dernier message aux vivants avant de se dire au revoir.
Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera.
Merci Christine Gonzalez, c'était magnifique de retrouver Maurice Chevalier.
Un peu vieillot.
Oh là là,
c'est fou cette histoire qui revient comme ça dans l'instant, Benjamin Brio.
Oui, oui, mais c'est assez assez régulièrement d'ailleurs. Enfin, il est assez tentant parfois de rebondir sur l'actualité avec un fait historique. Bon, il peut y avoir des travers, hein, puisque finalement, on dit souvent que l'histoire se répète. En vrai, c'est pas tellement vrai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des analogies, mais il y a toujours des petites différences qui font que c'est pas vraiment la même chose. Mais oui, c'est très tentant de réutiliser cette histoire. Et puis, ça permet aussi de la faire vivre, hein, finalement.
Merci Christine Gonzalez. On y était en connexion. Et là, on a bien compris que Jackie Sardou a un abonnement avec vous à l'au-delà.
J'y peux rien, ça incruste à chaque fois, celle-là.
On va aborder cet autre sujet sur la télévision publique tchèque qui propose un programme de télé-réalité historique. Elle envoie des candidats dans le passé, c'est-à-dire à l'ère de la vapeur, par exemple. Ici, ils vont vivre à la manière de leurs ancêtres à la fin du 19e. La production a redonné vie à une usine à l'abandon, ainsi qu'à l'habitat ouvrier qui l'entoure. La reconstitution obéit quand même à une bonne rigueur historique, semble-t-il. L'immersion dans l'histoire est si réaliste qu'on se demande si pour les candidats, si à un moment, c'est pas difficile d'en sortir.
Il s'en est passé des choses en 65 ans, il s'en est pas plus. La guerre de 14, paf. La guerre de 40, paf. Tout marche à l'électricité, même les guitares à l'électricité, tout ça. Les aéroplanes, à quelle vitesse croyez-vous qu'ils volent? Voilà.
80 à l'heure?
Mon pauvre petit, 2800 km à l'heure. Ils ont la forme de cigarettes, sauf deux fois la vitesse du son. Vous arrivez à New York avant d'être parti de Paris, à cause des décalages horaires, évidemment. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui.
Ça doit dépenser beaucoup de pétrole.
Mais c'est fini le pétrole, maintenant c'est le kérosène. En attendant le carburant atomique, l'atome, les neutrons, et maintenant on va sur la Lune avec un insecte.
Avec un insecte?
Allez, un insecte modu.
Hibernatus, ouais, le film d'Edouard Molinaro. C'est un article que nous avons trouvé dans le Courrier International cette semaine, qui nous raconte donc cette émission de la télévision publique tchèque, qui a vraiment un succès d'estime et qui est même saluée par l'Union européenne de radio-télévision pour la qualité de sa production. C'est dingue. Vous avez entendu parler, vous, Benjamin Brio, de cette émission en Tchéquie qui est...
Eh ben avant aujourd'hui non.
Ah, c'est vrai.
Voilà, mais c'est intéressant. Faut voir comment c'est fait. Je suis curieux.
Oui. Mais c'est ça justement. C'est l'écueil, c'est que ce soit pas historiquement juste. C'est ça qui vous angoisserait, vous?
Non, pas forcément, parce que je me dis que ce genre d'émission a pas le but, c'est pas d'être historiquement juste. Je pense que c'est peut-être de prendre un peu de recul aussi sur la notre condition plus moderne finalement vis-à-vis du travail aussi. Donc je pense que ça a son utilité. Faut le prendre pour ce que c'est, quoi, une émission de télé-réalité.
Oui, oui, mais qui, par exemple, l'article explique que les gens ont vraiment dû apprendre à se nourrir avec très très peu de choses, faire 14 heures, 12 à 14 heures de travail par jour. Et comme leurs ancêtres, à la fin du 19e, les participants ont fini par se mettre en grève.
C'est-à-dire que ils
éprouvent vraiment les difficultés et la vie de l'époque parce qu'ils sont dans les conditions de l'époque. Christine Gonzalez.
Non, parce qu'en Suisse, la radio-télévision suisse a fait aussi une série qui avait cartonné télé-réalité, ça s'appelait Mayen 1903, c'est où des téléspectateurs étaient plongés dans les pâturages du début du 20e siècle et ça avait cartonné, c'était très drôle de les voir comme ça, complètement paumés, au milieu de rien, sans électricité et sans eau, et c'était malgré tout assez didactique sur différents plans.
Oui, oui, ça fonctionne bien.
Benjamin Brio, est-ce que ce qui n'est pas bien là-dedans, c'est que comme il y a deux histoires, il y a celle des grands rois, des grands noms, et puis il y a l'histoire de Brodel, celle des gens qui vivaient et qu'on a tendance à moins transmettre, c'est pas mal aussi qu'on voit ça, qu'on voit...
Oui. Oui, moi je pense que c'est profondément bien qu'on voit ce genre de choses, parce qu'on a toujours tendance à voir à travers certains médias que l'histoire, c'est l'histoire des rois, machin. Bon, l'histoire c'est pas que ça. Hein. Il y a quand même 99% de la population qui est bouffée pas dans des assiettes. Voilà, donc c'est important de voir leur vie aussi. Maintenant, moi je pense que cette émission-là, encore une fois, je l'ai pas vue, mais ça peut être intéressant pour les gens d'avoir cet autre rapport à l'histoire, à la condition du travail, comme je le disais. Ça peut montrer qu'il y a une histoire qui est aussi une histoire économique, une histoire sociale. Mmh. Et peut-être que...
Et d'éprouver l'histoire, en réalité.
Oui, ouais. Et alors peut-être que cette émission a ses limites aussi, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'aspect reconstitution, on sait que dans toute la partie reconstitution en histoire, il y a toute une partie assez intéressante qui est celle de se dire... On essaye de reconstruire et en mettant en pratique, parfois on découvre des choses. Et là, bon, le fait qu'il se soit foutu en grève, je trouve ça assez, assez drôle, parce que c'est assez symptomatique.
C'est vrai.
Mais c'est vrai qu'on peut découvrir des choses. Des fois, on se dit, bah, tiens, ça se passait comme ça. On le met en œuvre à travers la reconstitution. On se dit, ça fonctionne pas. Et donc là, on peut peut-être avoir des pistes un peu rigolotes qui se détachent.
Et pour terminer, si vous étiez producteur de cette émission, ou peut-être candidat, dans quelle époque vous adoreriez vous plonger? Quelle époque vous aimeriez éprouver?
Je crois que l'expérience, cette expérience-là, elle parle d'elle-même. C'est-à-dire que quand les candidats sont sortis de l'émission, ils étaient bien contents de revenir. Donc, je suis pas bien sûr que d'avoir envie de revenir dans c'est le vrai. Passé. Moi, je suis très bien.
En tout cas, on sait que s'ils veulent les plonger dans la préhistoire, c'est pour tuer les gens. Hein. Donc ça, ils le feront sans doute pas. Je vous renvoie au Courrier International avec cet article très intéressant qui s'appelle « Des vacances à l'usine » pour l'émission. Rukyata Ouedraogo est avec nous.
Ah, ça y est.
En ce vendredi, oh, dites donc.
Ah mais je suis au taquet là. Mais ben c'est vrai les amis, ça fait quand même 2 jours, non? On dit quoi?
Ouais.
Ah, ça fait 2 jours qu'on ne s'est pas vu.
Ça fait longtemps, ça
ouais,
veut dire.
Ouais, c'est ça, chez moi c'est
ça
une
expression. Ça fait trop longtemps.
C'est ça, ça fait 2 semaines. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des hasards de calendrier remarquables, parce que justement, figurez-vous qu'il y a 2 semaines aussi, c'était remaniement dans mon village comme à Paris.
Mais non.
Mais
oui. Alors, le chef a renouvelé son équipe dirigeante. En fait, ça se passe un peu comme ici. Le pouvoir use, le pouvoir absolu use absolument. Le chef des tambours avait les tympans explosés, il ne pouvait plus exercer. Le responsable de la pluie, qui n'avait jamais réussi à faire tomber une seule goutte d'eau dans le village, a fini par obtenir son visa après une quinzaine de refus. Donc, il est parti vivre en Bretagne, là où il pleut 11 mois sur 12, et je sais de quoi je parle, Benjamin, je suis bretonne. D'adoption. Le chef de l'intérieur a démissionné parce qu'il voulait devenir chef dans son propre village. Enfin bref, il fallait un remaniement. Donc, le chef de village, après 2 semaines de négociations avec son premier sous-chef, a convié tout son gouvernement sous l'arbre à palabre. Et il y avait aussi mon oncle Théophras, qui, en plus d'être chosologue à l'université de Ouagadougou, est le porte-parole du chef. Vous savez, chez moi, en fait, chez nous, il faut un intermédiaire pour communiquer au peuple les paroles du chef. Parce que le chef ne s'adresse pas directement aux gens. Et comme il ne leur parle pas, il n'est pas non plus obligé de les écouter. C'est le secret de la bonne gouvernance. Donc, Tonton a dévoilé les noms de la nouvelle équipe dirigeante et l'information s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre, si bien que le matin même, tout le monde y allait de son commentaire au dolodrome. Alex, je ne vous explique pas ce que c'est qu'un dolodrome.
Expliquez-moi quand même.
Non, mais c'est... Mais enfin, oui, Alex, je vous ai déjà expliqué qu'un dolodrome, c'est l'endroit où les dolotières vendent le dolo, la bière de mille.
Oui, d'accord.
Bon, c'est comme dans un bistrot, si vous voulez, où on ne peut boire qu'une seule boisson. Bon, enfin, quand je dis une seule boisson, il faut nuire. Parce que comme la fermentation n'est pas arrêtée, le dolo à 9h, il est comme du jus de pomme pour les enfants. À 15h, il vaut une bonne jupilère. À 20h, accroche-toi mon garçon, une demi-calébasse et tu danses tout nu sur la table en chantant la Marseillaise. Donc, comme nos villageois commentaient la nouvelle du remaniement depuis le matin au dolodrome, plus on avançait dans l'après-midi et plus les analyses étaient pertinentes. Abou affirmait que les nouveaux nommés appartenaient tous à la famille du chef, ce qui n'est pas très démocratique. Joseph faisait remarquer que le nouveau chef de pluie n'appartenait pas à la famille du chef, mais à celle de sa femme. Jean-François, qui emmerde tout le monde avec ses discours anti-système pénibles et son idée de frontières autour du village, disait que la démocratie, même les Toubabous n'en veulent plus. Youssouf, le barbu radical qui emmerde tout le monde aussi, a dit que les faux chefs sont des imposteurs et que Dieu est l'unique vrai chef et que lui, Youssouf, en tant qu'homme le plus pieux du village, devrait être nommé chef à la place du chef. Mon tonton Théophraste les a répondu. Vous deux là, on vous connaît. Vous ne rêvez que de pouvoir. Une équipe dirigeante aux ordres, en marche comme un seul homme derrière un hyper-chef, c'est pas terrible. Mais ça vaut mieux que de voir 2 gougnassieux comme vous diriger le village. Pendant ce temps, Ernestine la Dolotière glissait à l'oreille de son plus fidèle client, le vieux Tasséré, que le remaniement ne sert à rien, mais que c'est bon pour les affaires parce que ça fait parler les hommes et vendre son dolo. Et pour finir, tout le monde est tombé d'accord avec Tonton, parce qu'il n'y avait plus de dolo dans les jarres et que la discussion comme ma chronique avait assez duré.
Merci Rukyata Ouedraogo. Vous jouez le mardi 13 novembre à Quetigny, c'est près de Dijon. Il y a une autre sorte de dolo qui se vend là-bas dans la région. Et le vendredi 16 novembre, vous serez à Moneto, c'est près d'Auxerre, parce que vous êtes la marraine du festival Afrique au cœur. Est-ce qu'on sait si Jean-Luc Mélenchon a compris la chronique?
Alors là, il dit hashtag glottophobie. C'est le mot de la semaine, quoi.
Allez, le youtubeur de Nota Bene, Benjamin Brio, est avec nous. Et voici ce dernier sujet. Il n'y a pas que des portiques et des flics dans les écoles. Il y a aussi Stéphane Bern. Son livre sur les rois a été distribué à 50 000 exemplaires dans des établissements de l'éducation nationale. Les profs d'histoire géo ne sont pas ravis, excepté ceux qui sont vraiment pour une pédagogie très différenciée, très moderne.
Être à la mode, une méthode qui semble porter ses fruits. Mais certains ne sont pas convaincus de cette démarche.
Oui, alors, je dois vous dire que moi, je suis extrêmement dubitatif avec toute cette histoire de vouloir moderniser le programme. Puis alors, l'accès au porno, qui devient de plus en plus facile, non ?
Oui, alors là, Christian, après, faut pas avoir le mal partout non plus. Moi, je vois dans mon cours, j'utilise très bien le porno, ça marche bien. C'est... Mais je... Attention, je fais... Bah, je m'en sers dans mes cours, dans les manuels, on voit pas grand-chose.
C'est le palmacho. Benjamin Brio, le livre de Stéphane Bern s'intitule « Le temps des rois », où il présente les destins des monarques célèbres à travers des timbres. Et 50 000 exemplaires dans les écoles. Alors, les profs d'histoire géo, via leur association, disent c'est une vision de l'histoire. Histoire désuète, et puis sont pas très très contents que ce soit Stéphane Bern qui entre comme ça dans les écoles. Vous en pensez quoi, vous, comme un livre de Stéphane Bern, support pédagogique à l'école ?
Je suis pas bien sûr que ça soit une bonne idée. Je pense que peut-être que Stéphane Bern endosse un rôle de médiateur aussi. Moi, c'est ce que je fais, et je pense qu'on on remplace pas les profs. Alors, c'est des émissions qui peuvent venir peut-être en support pour introduire un cours ou pour suivre une certaine curiosité. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas lu le bouquin, mais ce que reprochent les profs d'histoire à ce bouquin-là, c'est que ça manque vraiment de contexte. On lui reproche de trop mettre l'accent sur les hommes, leurs passions, leurs petites histoires, comme d'habitude. Alors, je veux dire, c'est bien de montrer que les grands hommes sont aussi faits de chair et de sang, qu'ils ont des passions, parce que ça peut expliquer les trucs. Mais c'est vrai que si on le met pas en contexte, ça sert pas à grand chose. Et pour moi, l'histoire, elle doit servir, l'enseignement de l'histoire doit servir à ce que les élèves puissent développer un esprit critique sur le monde qui les entoure, qu'ils puissent comprendre les mécanismes qui agitent l'histoire pour ensuite prendre du recul dans le monde qui les entoure.
Stéphane Bern, c'est pas l'esprit critique, alors.
Avec tout le respect que j'ai pour Stéphane Bern, je pense pas que cette approche soit la bonne. Évidemment que les jeunes ont besoin de repères aussi, et que parfois un petit peu d'incarnation, ça fait pas de mal. Ça je suis pas contre, mais faut
vous
le contextualiser.
Vous êtes des passeurs, Stéphane Bern est un passeur à la télévision, et il attire sans doute du public à la télévision et intéresse les gens à l'histoire. Vous aussi, vous êtes un passeur. Est-ce qu'il y a des enseignants qui peuvent s'appuyer sur... C'est déjà arrivé que vous entriez à l'école, qu'il y a des enseignants qui s'appuient sur l'une ou l'autre de vos vidéos?
Oui, alors je reçois souvent des messages, ça va vraiment de la primaire jusqu'à l'université. Après, moi-même, je suis déjà intervenu en université plusieurs fois, notamment à Angers et à Créteil, auprès d'étudiants futurs historiens, mais pas pour apporter ma science de l'histoire, surtout pour apporter ma vision de la transmission et de comment, finalement, j'arrive à dynamiser un petit peu ça auprès du public, parce que je pense que pour supporter une discipline universitaire, il faut aussi que le public puisse y adhérer, et que parfois, les discours des historiens sont peut-être encore parfois un petit peu trop complexes, pas assez accessibles. Et il y a beaucoup d'historiens qui commencent à faire ce travail, justement, de pédagogie, en essayant de rendre le truc un peu plus user-friendly, quoi. Et je trouve ça bien, et il faut qu'on continue, parce que c'est important.
Mais ça doit motiver quand même tous les gens qui traitent et travaillent l'histoire de voir que quand Stéphane Bern fait une spéciale Château de la Loire en prime time sur France 2, il y a du monde qui regarde.
Ouais. Oui, mais de toute façon, l'histoire, enfin, les Français globalement ont l'air d'être assez passionnés d'histoire.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Benjamin Brio et sa chaîne YouTube Nota Bene. Mais qui vient d'entrer dans ce studio,
mais
Alex ?
Il fait l'histoire en mouvement, c'est Frédéric Fromet qui nous chante son temps chaque semaine. De quoi on va parler et chanter, Frédéric, cette semaine ?
Eh bien, vous connaissez Kirikou, qui par sa grande intelligence apporte toutes sortes de bienfaits aux habitants de son village. Eh bien, on a aussi Chikirou, qui par sa grande intelligence apporte toutes sortes de bienfaits à sa société de communication. Chikirou n'est pas grande, mais tout le monde la demande. Chikirou n'est pas grande, mais tout le monde la demande. Chikirou est un génie, c'est elle qui le dit. Chikirou est un génie, c'est elle qui le dit, en toute modestie. Je chante avec un accent parce que Mélenchon adore ça. Chikirou est génial à l'international. Chikirou est génial à l'international. Chikirou tellement elle s'aime, elle se conseille elle-même. Chikirou tellement elle s'aime, elle se conseille elle-même. Elle s'adore sur BFM. Chikirou est brillante, même quand elle se plante. Chikirou est brillante, même quand elle se plante. Quand elle sabote le média, c'est pas du bénévolat. Quand elle sabote le média, c'est pas du bénévolat. Il faut payer Sophia. Et c'est pour bosser à fond qu'elle dort chez Mélenchon. C'est pour bosser à fond qu'elle dort chez Mélenchon. Chikirou, c'est parce qu'elle bûche qu'elle pionce chez Méluche. Chikirou, c'est parce qu'elle bûche qu'elle pionce chez Méluche. C'est pour travailler plus. Chikirou a des potes qui enfoncent les portes. Chikirou a des potes qui enfoncent les portes. Et celui qui n'a pas peur de pousser un procureur. Et celui qui n'a pas peur de pousser un procureur. Chikirou lui fait des cœurs. Chikirou tellement doué n'a rien à se reprocher. Chikirou tellement doué n'a rien à se reprocher. Pour l'avoir les yeux baissés, faudra les lui crever. Pour l'avoir les yeux baissés, faudra les lui crever. Mais ce sera facturé.
Merci Frédéric Fromet. C'est vrai que malheureusement, ils ont bien alimenté la chronique.
On avait perdu tous les fionnistes qui nous écoutaient l'an dernier. On perd tous les mélanchonistes cette année. Et qui va rester que les macronistes Pourtant, non, c'est pas qu'on...
On les a perdus depuis le début. Oui, donc, il ne restera plus personne. Merci Frédéric Fromet. Vous jouez ce week-end?
Moi, je joue le 3 novembre à Bordes-sur-Arize. C'est dans l'Ariège.
Ah, très bien. Mais merci beaucoup. Merci à Benjamin Briot, qui était notre invité aujourd'hui. Le créateur de la chaîne YouTube Nota Bene, qu'on vous conseille chaleureusement. Merci Benjamin.
Merci pour l'invitation.
Pour ce moment passé avec nous. Merci à Rukyata Ouedraogo, Mélanie Bauer, Christine Gonzalez qui retourne en Suisse, mais qui revient la semaine prochaine. Merci Alex.
Mais de rien.
Et on va laisser le mot de la fin. Déjà remercier toute l'équipe. Chaleureusement.
L'équipe.
Voilà. Paul Plumet, notre stagiaire, qui heureusement est assisté de Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson et Ramzi avec un I Assadi. Formidable équipe avec Frédéric Fromet au Blagounette cette semaine. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, Tristan Gratalon à la technique aujourd'hui. Et le mot de la fin, c'est surtout, n'oubliez pas ce week-end.
N'oubliez pas, changez-le, tout est là pour ce week-end.